Franchement. Beaucoup de jeunes, malheureusement, aujourd'hui à 18 ans, ne sont pas mûrs. Et donc, ils sont en ce moment-là lâchés dans la nature, quoi. Au moins davantage lâchés dans la nature. Et c'est vrai que là, ils peuvent aussi perdre, il y a un risque de perte de vocation. Alors, que faire spécialement à cet âge-là? Souvent, il est important, bien sûr, de garder contact avec ses enfants et donc faire en sorte que le contact passe bien. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais parfois aussi, il est bon de favoriser des relais. Donc, un bon mouvement de jeunesse peut beaucoup aider, donc les jeunes gens et les jeunes filles dans cette période. Également, la direction spirituelle peut être un bon soutien. Et puis pour une fille, donc d'avoir une bonne amie, ça peut aussi l'aider. Et puis pour un garçon aussi, avoir un bon ami sur qui s'appuyer. Donc le choix des amis est aussi donc capital à cet âge-là. Et inviter aussi les jeunes, spécialement ceux dont on soupçonne qu'ils ont une vocation possible, qu'ils fassent au moins une retraite tous les 2 ans, ça peut aussi être pour eux un précieux soutien. Alors maintenant, dans la question de la vocation, un point aussi important pour les mamans, un point aussi très délicat. C'est qu'il faut éviter, bien sûr, quand un enfant a commencé à parler de la vocation, de lui reposer la question tous les 15 jours pour savoir si aujourd'hui il a encore la vocation. Parce que ça peut après faire l'effet inverse de ce qu'on recherche. Et puis éviter d'avoir la vocation à la place de l'enfant. Ça arrive. Donc il y a alors ça ne tient pas n'importe comment. Enfin, mais j'ai eu plusieurs qui sont rentrés au séminaire et pour moi, ça semble très clair que c'est la maman qui avait la vocation à la place du jeune. Et la maman, interdiction à son fils de rentrer au séminaire. Elle voulait en profiter une année de plus, quoi. Ben, j'ai trouvé que c'est. Alors, du coup, j'ai. En plus, des gens de la tradition. Parce que c'était un fils unique, alors non, on voudrait quand même qu'il reste encore à la maison. Alors, bon, et du coup, j'ai envoyé une lettre aux parents pour leur rappeler leur devoir. Bon, finalement, il est quand même rentré, il est arrivé au sacerdoce, donc il a vraiment eu de la chance. Mais assez souvent, lorsque je compare la vocation à un fruit, vous voyez, donc un fruit qu'il faut laisser mûrir. Donc tant que le fruit n'est pas mûr, il ne faut pas le cueillir. Vous voyez. Si on arrache le fruit plus tôt, eh bien, en ce moment-là, il ne pourra pas donner donc le résultat qu'on pourrait attendre. D'où la nécessité, les prêtres qui ont l'habitude, par exemple, des enfants le savent, assez souvent, les prêtres voient, discernent avant l'enfant la vocation. Ils attendent que l'enfant lui parle. Et si on le fait donc trop tôt, on risque de tout casser, quoi. Parce qu'il faut que l'enfant, eh bien, ou que le jeune homme en tout cas, il faut qu'il ait l'impression que ça vient vraiment de lui. Parce que s'il a l'impression qu'il est pressé par un prêtre ou pressé par des parents, ça ne va pas. Donc il faut laisser le fruit mûrir. Mais ensuite, après, une fois qu'il est mûr, il faut le cueillir. Parce que si on traîne, on traîne, on traîne, eh bien en ce moment-là, on peut perdre sa vocation. Et donc ça aussi, je l'ai constaté, donc des jeunes gens qui donc soit sont trop hésitants, donc pour les aider à prendre une décision, je fixe une date butoir pour les aider à prendre cette décision. Donc ça veut dire que s'ils dépassent cette date, n'importe comment, je ne les prendrai pas. Donc ça, ils le savent. Et du coup, ça les oblige à prendre une décision. Mais parfois, certains, ils ne veulent pas rentrer. Enfin, ils pensent que ce n'est pas encore mûr, et puis ils retardent, ils retardent, ils retardent, et puis finalement, ils ne rentrent jamais, quoi. Ça peut parfois être un cas de non-vocation, mais parfois ça peut aussi être un problème des jeunes qui n'arrivent pas à se décider. Et il faut savoir aussi que c'est beaucoup plus facile de rentrer au séminaire à 20 ans ou à 18 ans qu'à 30 ans. Donc plus on retarde, enfin, il y a deux types de vocations, hein. Celui qui a la vocation qui tombe dessus à 30 ans, il ne va pas rentrer à 20 ans. Il n'avait pas la vocation. Hein, donc les cas de figure se présentent, et je pense que c'est même très bien pour la fraternité d'avoir à la fois des jeunes qui rentrent au séminaire et des moins jeunes. Donc c'est aussi les deux sont, c'est vraiment parce qu'un prêtre qui a une bonne expérience avant d'entrer au séminaire, c'est aussi très utile après même pour les fidèles et pour la fraternité. Donc c'est deux types de vocations différents. Mais je dis qu'en soi, donc ce n'est pas lié, c'est pas un problème de faute personnelle, mais c'est plus difficile de s'engager dans la vie à 30 ans qu'à 20 ans. Donc c'est assez rare, par exemple, que j'étais obligé d'inciter donc le jeune homme à fixer une date butoir lorsqu'il s'agissait donc d'un jeune qui n'avait qu'une vingtaine d'années, quoi. Alors que quand il a une trentaine d'années, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois. Et puis parfois, il peut aussi y avoir une opposition des parents, non pas tant à la vocation de leur enfant qu'à la nature de la vocation. J'ai eu un jour dans mon bureau, c'était un jeune homme qui devait rentrer comme frère. Visiblement, il avait une vocation. S'il avait une vocation, c'est une vocation de frère, ce n'est pas une vocation sacerdotale, mais les parents voulaient à tout prix que leur fils soit prêtre. Et donc, il arrive au séminaire avec ses parents, pour la rentrée des frères. Et puis, les parents, donc je les accueille au parloir. Donc, ils étaient là, les parents, avec leur fils. Et puis, donc, le père commence à parler. Bon, je veux bien donner mon fils au bon Dieu, mais au moins qu'il soit prêtre. Alors, bon. Alors, à ce moment-là, moi, je lui explique que la vocation n'est pas la même. Donc, j'essaie de lui expliquer la différence qu'il y a entre une vocation sacerdotale et une vocation religieuse. Et je lui montre qu'il y avait des obstacles à la vocation sacerdotale et des qualités objectives pour une vocation religieuse. Le père s'est mis à pleurer. Alors après, la mère s'est mise à pleurer et le garçon s'est mis à pleurer. Donc ils étaient là, tous les trois en pleurs dans mon bureau. Bon, j'ai attendu que ça passe. Et il est évident qu'on pouvait le deviner, ce jeune homme est resté au séminaire, mais il n'est pas resté longtemps. Il a quitté le séminaire. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Ensuite, on peut constater que dans les circonstances de l'appel, donc il y a les jeunes gens qui ont pensé pour la première fois à la vocation, donc ça c'est la première chose, et après il y a ce qui a fait que la vocation a pu aboutir, donc il y a la décision qui a été prise. Donc certains d'entre eux ont dit que, quand je leur demande quelles sont les circonstances donc, qui ont paru décisives dans leur vocation, donc beaucoup disent que c'est au cours d'une retraite, c'est la plupart, enfin la plupart. Parmi les critères, le critère qui vient en premier, c'est celui-là, c'est au cours d'une retraite. Ensuite, beaucoup disent que c'est au cours d'une messe, donc en entendant une messe, au cours d'une messe, ou d'une première messe parfois, donc ils ont à ce moment-là été touchés par la grâce. Donc quelques-uns, donc il y en a 5 au cours de leur première communion, et puis 9 à l'occasion d'une autre cérémonie liturgique. Donc ça c'était, j'avais fait les statistiques sur quelques années, donc sur un peu plus de 100 séminaristes. Ensuite, certains donc attribuent essentiellement leur vocation à leur famille, donc ils disent que ça vient de leur famille, d'autres des écoles, et d'autres d'un mouvement de jeunesse. Et beaucoup disent que ça vient, qu'ils ont été aidés par un prêtre. Donc ça veut dire que c'est pas tout seul, donc il y a eu cette aide d'un prêtre qui leur a permis de voir clair par rapport à leur vocation. Certains aussi ont dit que c'était au cours d'une lecture ou d'un sermon, et puis d'autres encore au cours d'une visite au séminaire. Donc quand on sait un peu les critères donc, qui ont permis à des jeunes de rentrer au séminaire, donc ça peut être intéressant donc, d'utiliser cela pour essayer donc, de permettre à un jeune d'y voir plus clair. Donc soit de passer au séminaire pour voir plus clair, soit d'assister à une première messe, soit de faire une retraite, ou d'être suivi en tout cas par un prêtre. Alors ensuite, après, une autre question qui se pose, c'est la question des départs. Donc il y a ceux qui rentrent au séminaire et ceux qui ressortent du séminaire. Donc en gros, on peut dire, dans les 20 dernières années, et même pareil dans les 10 dernières années, il y a à peu près la moitié des séminaristes qui rentrent au séminaire qui ressortent. Et quand ils ressortent, très souvent, ça relève plus du fort interne que du fort externe. Donc relève du fort externe, donc ce qui est visible au fort externe. Par exemple, un séminariste qui aurait... Et s'il n'arrive pas à suivre du tout les études, il a de très mauvaises notes, bon, c'est quelque chose d'extérieur. Vous voyez. Ou alors, bon, un comportement de collégien, donc de gamin. Bon. Mais, ou alors aussi, ça peut être le fait qu'il n'épouse plus les idées de la fraternité saint-pédiste, donc il pense, donc, soit il devient sédévacantiste, soit il devient rallié. Bon, ça, c'est des critères. Donc, voilà. Mais maintenant, très souvent, c'est des critères qu'on appelle du fort interne, c'est-à-dire que ça relève du fort de la conscience. Donc c'est lié à son fort intérieur et donc à la direction spirituelle. Si bien que dans plus de la moitié des cas, ceux qui quittent le séminaire, c'est un problème du fort interne, donc c'est lié à un problème, ça peut être quelqu'un de scrupuleux, un problème qu'un jeune homme qui a du mal à garder la vertu, bon, il peut y avoir après des tas de cas différents. Mais c'est vu avec le directeur spirituel. Si bien que parfois, il peut arriver même qu'un directeur de séminaire soit étonné de voir un jeune homme qui quitte le séminaire. C'est tout simplement lié à des problèmes de fort interne. Et je dis ça, c'est un peu rassurer aussi parfois des parents, et puis ça peut montrer aussi aux parents qu'il y a des choses qui peuvent les dépasser, vous voyez. Parce que c'est pas parce qu'un jeune homme met bien le pouce droit sur le pouce gauche qu'il a une bonne tête et qu'il a la tête légèrement penchée comme ça quand il suit la messe hein, qu'il a nécessairement la vocation. Voyez. Donc il y a d'autres critères de vocation. Et donc après, ce qui relève après du fort interne, il y a des choses du fort interne qui transparaissent au fort externe. Donc un séminariste qui a un visage complètement éteint, bien sûr, ça se voit. ou alors qui est vraiment scrupuleux, qui vraiment, ça peut se voir. Mais il y a d'autres problèmes après qui peuvent ne pas forcément se voir pour une personne qui ne connaît pas le séminariste. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de porter des jugements trop hâtifs sur tel jeune homme qui a quitté le séminaire alors qu'il est d'une famille très bien, alors qu'il est très bien. Oui. Alors que ça, il y a des choses qui peuvent vous échapper complètement. Oui. Alors maintenant, parmi ceux qui ont révélé, donc qui ont quitté le séminaire, je vous donne quelques critères quand même, enfin quelques exemples. Certains d'entre eux, c'était lié à un manque d'équilibre, donc ça se voyait. Hein, donc, d'autres, questions d'immaturité. D'autres, ils n'avaient pas prononcé pleinement leur oui, alors que pourtant j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas au séminaire uniquement pour voir ce que c'est, et puis en disant si j'ai la vocation, je reste, si je ne l'ai pas, je pars. Oui. C'est important, notre Seigneur dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Donc c'est très important, quand on veut se donner, de se donner totalement. Oui. On ne se donne pas pour 15 jours ni pour une année à l'essai. Oui. On se donne totalement. Après, si de fait on n'a pas la vocation, donc il y aura des critères objectifs qui montreront qu'on n'est pas fait pour cela. Mais il faut du côté de celui qui se donne, eh bien qu'il se donne totalement. Oui. Si quelqu'un veut s'engager, je sais pas, dans les paras ou autre, et qu'il se dit, bon, je vais juste essayer pour voir si ça marche, oui. Ben, il y aura beaucoup de chances que ça ne marche pas. S'il dit, ben, je m'engage, donc il a vraiment l'intention de s'engager, c'est possible qu'après il ne tienne pas. Mais là, ce sera lié après à certains problèmes. Tandis que si dès le départ, il s'engage sous condition, ça veut dire qu'il est déjà prêt à lâcher dès le départ, oui, si ça ne marche pas. Donc quand l'obstacle arrive, paf, ben donc il s'arrête. Oui. Alors qu'il faut une détermination de la volonté pour pouvoir arriver au bout. Oui. Donc ça, c'est capital, bien sûr, chez le jeune. Et puis après, donc, oui, il y a pu y avoir, enfin, après il y a encore d'autres causes, mais je ne vais pas encore trop multiplier, mais je donne un peu quelques cas. Voilà. Alors bien sûr que mes objectifs à la place où je suis, c'est de faire en sorte d'accroître le nombre et la qualité de ceux qui rentrent. Et également de limiter les départs, bien sûr, en décernant plutôt les faiblesses afin de fortifier donc les jeunes. Donc il y a un certain nombre de personnes, donc, les jeunes en ce qui se présente à moi, donc, ou je les accepte, ou je les refuse, ou je les fais attendre. Vous voyez. Donc il y a toujours les trois cas de figure. Donc je n'hésite pas à faire attendre ceux dont je vois qui pourraient avoir certaines faiblesses pour qu'ils puissent compenser ces faiblesses afin qu'ils soient plus forts en rentrant. Et il me semble que si vous avez donc vous-même une connaissance plus juste de la vocation, eh bien ce sera plus facile aussi donc de nous aider à votre place, donc à susciter donc ces vocations dans vos propres familles. Un autre élément aussi important, c'est le regard que les familles portent sur le prêtre pour susciter une vocation. Parce que lorsqu'un jeune se donne, il se donne parce qu'il est attiré par un idéal, vous voyez. On se donne à quelque chose de bien, on se donne à quelque chose qui vaut le coup, quelque chose qui nous attire. Oui. Alors c'est à nous, prêtres, d'être de bons exemples. C'est sûr que beaucoup de jeunes qui sont rentrés ont dit qu'ils sont rentrés parce que ils ont été attirés par des prêtres qu'ils ont appréciés, donc qu'ils ont admirés, et donc ils ont eu le désir de devenir prêtres. Donc nous, prêtres, il faut qu'on fasse des efforts pour être à la hauteur de notre vocation. Mais je pense que vous aussi, c'est important que vous ayez ce regard surnaturel sur le prêtre. Parce qu'il y a on voit bien que parmi nos fidèles, donc il y a ceux qui ont un regard bien spirituel, donc qui voient à travers le prêtre l'homme de Dieu, malgré ses propres faiblesses, malgré ses défauts. Et puis d'autres s'arrêtent aux petits côtés. Oui. Soit ils s'arrêtent d'ailleurs aux qualités humaines de ce prêtre, hein, qu'ils admirent, parce qu'ils apprécient beaucoup, mais même s'ils s'arrêtent uniquement aux qualités humaines, ils n'ont pas ce regard surnaturel. Et donc si l'enfant voit qu'il n'a pas lui-même exactement les mêmes qualités que ce prêtre, il pourra aussi être découragé. Oui. Et puis, si bien sûr on critique les prêtres du matin au soir, il ne faut pas être surpris qu'il n'y ait pas de vocation. Oui. Le père Baïf, donc, qui est parmi nous, qui a 89 ans, donc qui a aussi une très longue expérience donc, de la vie sacerdotale, et qui était surtout très grand confesseur durant toute sa vie, donc qui a aussi eu beaucoup de confidences, hein, il a dit qu'il a constaté que dans certaines familles, il n'y avait pas de vocation, et alors que c'était en soi de bonnes familles, et il attribuait ça à l'esprit critique. Il disait, vous voyez, dans ces familles-là, il y avait une trop grand esprit critique. Et donc, du coup, ben, faut pas être surpris en ce moment-là qu'il n'y ait pas de vocation. Parce que si l'enfant, il entend critiquer les prêtres, il va conclure dans sa tête que les prêtres, en tout cas, c'est des gens qui sont pas fréquentables, quoi. Donc, c'est pas ça qui va l'inciter ensuite à devenir prêtre un jour. C'est sûr. Donc c'est aussi un point, je pense, sur lequel il faut faire attention. Alors, spécialement les Français, parce que comme les Français ont beaucoup d'esprit critique. Mais encore une fois, c'est à nous aussi donc de ne pas donc porter la critique donc en essayant d'être exemplaire, bien sûr. Voilà. Et puis également, parmi ceux qui rentrent alors, donc qui sont de bons jeunes gens, on constate quand même aussi aujourd'hui qu'il y a des déficiences donc chez beaucoup de jeunes et des déficiences qui sont liées souvent donc à la aux premières années. Par exemple, le fait de savoir lire, de savoir écrire, de savoir parler, les règles de politesse, toutes ces choses-là, normalement, ça relève beaucoup plus des premières années, vous voyez. Et on voit qu'il y a certains d'entre eux qui ont beaucoup de lacunes dans ces domaines, vous voyez. Alors bon, quand je suis arrivé ici il y a 11 ans, j'étais un peu surpris de cela, quoi, de voir comme certains ont des licences, et les écritures. Il y en a eu un, par exemple, une année, bon, il n'est pas resté après au séminaire, mais il était quand même rentré. J'étais impressionné parce que donc il avait un niveau de seconde. Et ayant un niveau de seconde, je lui ai dit, eh ben, il faut avoir le bac pour entrer au séminaire. Donc, du coup, si vous voulez entrer au séminaire, donc je vous invite à. D'ailleurs, c'est une histoire qui en soi est belle, parce que je vous montre le début de l'histoire est la suivante. C'est que ce jeune homme, et donc un jour, la vocation lui est tombée dessus comme ça. Alors que c'était un catholique baptisé, non pratiquant, paf, je veux être prêtre. Donc, il va voir son curé. Voilà, monsieur le curé, je voudrais être prêtre. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être prêtre? Ah ben, alors, si tu veux être prêtre, il y a une équipe d'animation paroissiale, là. Donc, tu vas aller dans cette équipe-là, faire des partages, des carrefours, des échanges. Alors, lui, il ne connaissait rien. Donc, il a fait un petit stage, là, voilà. Et puis, au bout de 2 mois de stage, eh bien. Alors, on lui avait dit de revenir voir le prêtre. Donc, il revient voir le prêtre. Il dit, ben voilà, est-ce que vous êtes content de moi, de ce que j'ai fait? Et donc, en ce moment-là, on lui dit, ah non, 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 il y a quelque chose qui cloche. Non, tu ne pourras jamais être prêtre chez nous parce que tu es trop traditionnaliste. Mais lui, le mot traditionnaliste, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors, du coup, ben, il arrive penaud chez lui, très triste, quoi. Donc, il va voir ses parents et puis il dit à ses parents, ben, non, je ne peux pas être prêtre. Parce que je suis trop traditionnaliste. Mais il ne savait pas ce que ça voulait dire. Sans doute qu'il, ben, pour lui être prêtre, ça voulait dire faire des prières, ça voulait dire bon, donner les sacrements, enfin je sais pas. Donc il avait dû parler de ce qu'il pensait, de ce que c'est que le prêtre. Et donc les autres avaient conclu qu'il était trop traditionnaliste. Et puis il se trouve que sa mère, donc pas pratiquante, en parle à ses amis. Donc elle travaillait dans le corps médical. Et puis elle parle à une amie protestante. Elle dit à son amie protestante, il y a mon fils là, il a envie d'être curé, mais il ne peut pas être curé parce qu'il est trop traditionnaliste. Alors son amie, en ce moment, protestante, lui dit, ah, mais traditionnaliste, moi j'ai une amie qui est traditionnaliste, en Bretagne. Et donc, en ce moment-là, après, ah bon, c'est vrai, donc ça existe, des séminaires traditionnalistes aussi? Oui, enfin, je crois, mais je vais me renseigner. Du coup, alors cet ami téléphone à son ami qui est en Bretagne et puis qui lui dit, y a une dame que je connais, il y a son fils qui voulait rentrer au séminaire, mais il ne peut pas rentrer au séminaire diocésain parce qu'il est trop traditionnaliste. Alors toi qui es traditionnaliste, est-ce qu'il existe des séminaires traditionnalistes? Elle dit, bah oui, à Flavigny sur Oserin, donc elle lui donne l'adresse. Et c'est comme ça que ce jeune homme est débarqué chez moi. Voilà. Donc il arrive au séminaire, mais je me suis aperçu après quelques minutes de conversation que ce jeune homme, très gentil, ne s'était jamais confessé de sa vie et n'avait pas fait sa première communion. Alors je me dis, il y a quand même du boulot à faire, quoi. Donc j'ai pu bon, le préparer à la confession, donc il s'est confessé, mais il n'était pas encore prêt pour la première communion. Donc je l'ai invité ensuite près d'un prieuré pour qu'il se prépare à la première communion. Donc il s'est préparé à la première communion. Et après, donc, comme il a qu'un niveau de seconde, je l'amène dans une de nos écoles pour qu'il puisse donc parfaire sa formation. Donc il passe la classe de première et là il passe son bac de français. Après son bac de français, donc il était tout content, il m'écrit une lettre. Donc une lettre qui c'est simplement en recto. Il avait dû avoir 15 à l'écrit, 17 à l'oral. Il devait y avoir, rien que sur une feuille, donc en format A4 en recto, il devait y avoir 17 fautes d'orthographe. Alors j'ai montré ça à mes confrères, je dis, vous voyez, il veut rentrer au séminaire. Mais... Bon, enfin, j'ai fermé les yeux, je l'ai laissé passer son bac, donc il est rentré au séminaire. Bon, après, il est parti pour d'autres raisons. Mais je suis quand même très content parce qu'il a pu, il est bien fidèle maintenant dans la tradition, donc c'est un bon catholique. Donc on a pu au moins faire un bon catholique. Mais c'est pour vous dire que parmi ceux qui frappent donc à la porte du séminaire, il y a vraiment de tout. Là, je peux vous montrer, redonner encore un autre exemple de cela. C'est, alors donc, là, ça s'est passé un peu différemment. Donc il y a eu un pré-séminaire qui a été ouvert pendant une année à Vienne, au sud de Lyon. Et dans ce pré-séminaire, ils étaient à 5. Donc c'était une année de propédeutique, donc c'est à peu près l'équivalent normalement de ce qu'on est censé faire ici, de ce qu'on fait ici. C'était censé être la même chose. Et donc ils étaient à 5 en formation. Et puis, un de ceux-là, plus âgé, un ancien chauffeur poids lourd, de une bonne quarantaine d'années, donc il faisait partie des cinq, hein. Donc il avait quand même lu quelques livres de la mouvance de la tradition. Il avait lu des livres de Monsieur Couvert, La noce contre la foi, donc il avait un minimum de formation un peu traditionnelle. Et donc lui, il avait dans sa tête l'image du prêtre catholique, en rentrant là, quoi. Et puis, en entendant les cours qu'il avait, il y avait des choses qui le choquaient. Par exemple, on lui disait, oui, maintenant, on s'entend entre les religions, on appelle ça l'écuménisme, il y a le dialogue interreligieux. Alors lui, il levait le doigt et simplement, il disait, mais pourtant, le Christ, il a bien dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ah, mais alors, qu'est-ce que vous avez avec vos questions? Enfin, donc, il agaçait beaucoup les professeurs par toutes ces questions de bon sens et de l'évangile. Donc là, ils sont arrivés au mois d'octobre, et arrivé au mois de mai, donc en ce moment-là, un des prêtres qui donnait les cours, il a craqué, quoi. Donc il s'est levé, il a dit, mais je vois que je ne peux pas faire mon cours, vous n'arrêtez pas toujours avec vos questions. Alors en ce moment-là, lui, il a arrêté, il a dit, mais attendez, moi je pensais qu'en tant que séminariste, j'avais le droit de vous poser des questions, mais puisque visiblement mes questions vous gênent, c'est pas à vous de partir, c'est à moi de partir. Donc il se lève, et deux jeunes gens se lèvent avec lui. Et les trois arrivent ici et sonnent au séminaire de Flavigny. Mais alors bon, il y a eu du boulot, quoi. Alors lui, ancien chauffeur poids lourd, très gentil, enfin, tous les trois étaient très sympathiques, mais je me suis aperçu au niveau des critères que c'était de sélection justement du séminaire, qu'il y avait vraiment du travail. Donc aucun des trois n'avait le niveau du bac déjà, mais il n'y avait pas que ça, quoi. Et puis, après quelques minutes de discussion, je me suis aperçu que l'un des trois ne s'était jamais confessé de sa vie. Alors je lui ai posé trois fois la question quand même, parce qu'il était quand même séminariste depuis le mois d'octobre. Hein. Je lui ai dit, vous êtes jamais confessé de votre vie? Ah non, de ma vie. De votre vie? De ma vie. De votre vie? Oui, de ma vie. Ah bon. Donc du coup, ben voilà. Donc je l'ai préparé à la confession. Et puis, donc on a pu franchir cette étape. Alors bien sûr, il communiait tous les jours. Hein, ça, c'est jamais confessé de sa vie. Bon. Alors, bon, il a fallu, après, je l'ai envoyé dans un prieuré pour essayer de le former un petit peu. Et puis finalement, il a pu rentrer chez les religieux. Et aujourd'hui, il est religieux. Et puis, donc, le chauffeur poids lourd, donc, lui, c'était plus compliqué. Donc, je l'ai amené dans une de nos maisons. Et puis, bon, après, il n'est pas resté. Mais bon, il est toujours resté ami, mais ça s'est bien passé. Et puis, un autre a été religieux pendant un certain temps. Puis après, finalement, le troisième. Donc, et puis, ça n'a pas après marché. Mais en tout cas, il est toujours bien dans la tradition, quoi. C'est pour vous dire que parmi donc ceux qui frappent à la porte, il y a vraiment de tout, quoi. Mais en même temps, on découvre aussi ce qui se passe de l'autre côté, donc on s'aperçoit que il y a vraiment du travail pour arriver à faire en sorte que enfin, au niveau des vocations, quoi. Parce que parmi les séminaristes qui rentrent au séminaire, donc la moyenne à peu près, donc ce sont en général des familles nombreuses. Donc je fais les statistiques aussi, donc pour ça, de regarder le nombre d'enfants par famille. Je leur demande donc le nombre d'enfants par famille. Et donc là, depuis les 20 dernières années, non, depuis que je suis au séminaire, donc depuis les 11 dernières années, la moyenne doit être de 6, près de 6, enfants, non, 6 enfants par famille en moyenne. Oui. Et on a un nouvel évêque à Dijon là, depuis 2 ou 3 ans, et j'avais l'occasion de le voir une fois, donc il était donc arrivé ici dans le diocèse de Dijon. Et puis, donc, dans la discussion, je lui ai dit, donc il me dit, ah, le gros problème, qu'il me dit, c'est les vocations. C'est, ah. Il dit, vocation, ben, nous, ça va. Alors, à ce moment-là, il me dit, mais alors, comment vous faites, quoi, en gros? Est-ce que vous pourriez me donner le secret, quoi? Alors, je lui dis, ben, pour avoir des vocations, vous savez, à mon avis, il y a deux choses qui sont importantes, c'est bonne famille et bonnes écoles. Donc faire en sorte que les garçons soient éduqués dans de bonnes écoles catholiques, non mixtes, que les filles, donc après pour les vocations religieuses, soient éduquées dans de bonnes écoles, et c'est ça qui va favoriser les vocations. Et puis après aussi, bonne famille. Alors là, je lui disais, en ce moment-là, je crois que cette année-là, il y avait même un peu plus, c'était peut-être près de 7 enfants par famille, donc je lui avais donné ça. Elle me dit, oh, ce nombre-là, des familles aussi nombreuses aujourd'hui. Alors on se m'a dit, parce que moi, dans mon diocèse, il faut déjà que les gens se marient, quoi. Ah, et c'est vrai que c'est un gros problème, parce que les gens vivent ensemble sans se marier. Donc c'est... Voilà. Alors pour terminer, je vais vous donner maintenant quelques réflexions de séminaristes. J'avais intitulé ça, donc dans 2 lettres aux amis bienfaiteurs, j'avais interrogé les séminaristes et des frères pour qu'ils décrivent eux-mêmes l'origine de leur vocation. Donc voici quelques confidences donc de séminaristes. J'ai toujours aimé la liturgie. Même à l'église du village, je voulais servir la messe. Ensuite, j'aimais connaître ma religion et parfois prendre position par rapport à mes camarades de classe. Avant d'avoir 15 ans, je ne réfléchissais pas vraiment à l'idée d'être prêtre. Mais peut-être ne voulais-je pas y penser. C'est quand un prêtre m'a demandé si je n'y avais jamais pensé que ma vocation a commencé à mûrir pour s'affirmer vraiment clairement petit à petit. Je crois que je dois surtout ma vocation aux trois prêtres que la Providence a successivement mis sur mon chemin dans le but que je poursuive les desseins de Dieu en accomplissant sa volonté. Chacun à leur manière, ils ont permis qu'à leur exemple, je grandisse dans la foi, que j'ai une grande dévotion à Notre-Dame et dans la Sainte Messe. Un autre écrit, c'est dans une école traditionnelle que j'ai commencé à penser sérieusement à la vocation, à l'âge de 15 ans. Ce désir a été surtout stimulé par le don de soi que nous montraient les prêtres de mon école, par leur très grande bonté. De plus, mon contact avec la liturgie et mon rôle de sacristain ont enraciné en moi un profond attachement au culte de l'Église. Le facteur déterminant a été cependant le fait que l'Église, dans la crise actuelle, a un grand besoin de prêtres. Un autre écrit. Ma vocation est née en trois temps. Le premier, c'était vers l'âge de 8 ans, alors que je servais régulièrement à la messe. Au retour en quart d'une kermesse, je regardais avec d'autres enfants de chœur un petit film sur le Saint Curé d'Ars. C'est ainsi que pour la première fois, je pensais au sacerdoce. Le désir fut assez fugitif et je n'y pensais plus pendant toute ma scolarité, jusqu'à la classe de seconde où ce fut la deuxième étape. Ce sont les commentaires de mes camarades de classe qui m'ont fait repenser à l'éventualité de la vocation. Ceux-ci disaient, après m'avoir vu servir la messe, que la soutane m'allait très bien. Même si à l'époque je me défendais fortement de tous ces commentaires, ces remarques eurent l'avantage de réactualiser l'appel de Dieu en moi. Mais ayant d'autres idées en tête, j'oubliais rapidement ces pensées. C'est pendant l'été qui suivit mon bac de français qu'eut lieu le troisième temps, le plus décisif. J'assistais aux ordinations sacerdotales. La vue de ces prêtres qui venaient d'être ordonnés et qui imposaient les mains aux fidèles fut vraiment l'élément qui me décida à faire le pas. Cela me fit une telle impression que quasiment du jour au lendemain, je devins sûr que je devais entrer au séminaire. Encore un autre témoignage. Depuis 2 ou 3 ans, je m'occupais de jeunes adolescents dans différentes circonstances, le milieu scolaire, les mouvements de jeunesse. Petit à petit, mon regard sur ces jeunes qui m'étaient confiés changea. Se manifestait en moi un souci toujours plus grand de leurs âmes. Mon directeur spirituel, à qui je me confiais plus intimement, m'aida à déceler la volonté de Dieu, ses desseins nouveaux sur moi. Il répondit à mes questions, écarta avec prudence mes objections. Ses conseils collaient toujours plus à mes doutes. J'y voyais l'action de l'Esprit-Saint, ce qui me réconfortait, alors que tous les projets que j'avais faits depuis la fin de mes études secondaires étaient remis en cause. Il m'a soutenu dans ces longs moments, mais il ne m'a jamais poussé en répondant pour moi à la vocation, alors que dans un premier temps, j'attendais cela de lui. Après avoir écarté tous les doutes de mon esprit, je décidai d'entrer au séminaire, comptant sur la grâce de Dieu pour m'aider à supporter tous les renoncements. Dès cet instant, je fus apaisé. Et puis enfin, dernier témoignage. La circonstance décisive de mon entrée au séminaire a été d'étudier dans une classe préparatoire. C'est là que j'ai pris conscience de la nécessité de l'apostolat, auprès des jeunes notamment. En effet, dans cette prépa, j'ai été amené à côtoyer les jeunes qui sont appelés à devenir l'élite, entre parenthèses, de la pensée française dans les années à venir. Je ne me trouvais pas face à l'élève moyen ou médiocre, mais face aux meilleurs élèves formés par l'Institut l'Éducation nationale républicaine et laïque. Plusieurs d'entre eux devaient par la suite intégrer l'école normale supérieure ou d'autres écoles prestigieuses telles que HEC ou Sciences Po. Le fait de me rendre compte que ces futurs professeurs, universitaires, cadres, etc., vivaient pour la plupart dans un état de misère morale, de vide spirituel plus qu'alarmant, m'a donné le courage de faire le pas et d'entrer au séminaire. C'est essentiellement cela qui m'a poussé à y aller. Voir que toute cette jeunesse dans l'ensemble très douée, ces filles et ces garçons au crâne si bien rempli de tout ce qui constitue la culture, entre parenthèses, dans le monde, avait une âme si vide de l'essentiel, vide de Dieu. Au cours de cette période étudiante en prépa, j'ai suivi par ailleurs les activités du MJCF qui m'ont donné l'occasion de faire un tant soit peu d'apostolat auprès des jeunes de mon âge, ce qui m'a également aidé à entrer au séminaire. Après, j'ai posé comme question. Depuis que vous êtes entré au séminaire, avez-vous l'impression que votre regard a changé d'abord par rapport au monde ? Après presque 3 mois passés au séminaire, j'ai éprouvé durant les vacances de la pitié pour tous ces gens du monde qui ne connaissent pas la vraie joie, cherchent vainement le bonheur dans de faux plaisirs et finalement sont tristes. J'étais frappé par la physionomie de certains jeunes qui manifestement avaient un bon fond, mais me semble-t-il, par manque d'idéal, se rabattaient sur ce qu'offre le monde. En reprenant contact avec les préoccupations mondaines, j'ai eu le sentiment que le monde offrait des choses bien misérables comparées au bonheur suprême et qu'il conditionnait les gens plus qu'il ne les épanouissait. Par rapport aux âmes, j'ai un profond désir de voir les âmes de mes proches parents et amis chers vivre ou retrouver l'amitié de Dieu. Je prie souvent pour eux dans ce sens, alors qu'auparavant mes demandes étaient plus matérielles. L'éloignement opère un rapprochement spirituel. Quel sentiment éprouvez-vous à l'approche de votre prise de soutane? J'éprouve d'abord un profond sentiment d'indignité en voyant mes nombreuses fautes et en contemplant la grandeur du sacerdoce. Quoi? C'est en effet à moi que Dieu fait la grâce insigne de m'appeler à revêtir ce saint habit, alors que non seulement je suis un néant, mais en plus un néant pécheur et inique. Mais à ce sentiment d'indignité correspond un sentiment d'immense reconnaissance et une joie indicible à l'approche de la prise de soutane. Il y a quelques années, au cours d'une retraite, un prêtre m'a dit que si le bon Dieu m'appelait au sacerdoce, ce serait sans aucun doute la plus grande grâce de ma vie. Je n'en étais pas alors entièrement convaincu. Mais aujourd'hui, je le suis pleinement et j'en suis confondu en reconnaissance devant la libéralité divine envers une si misérable créature. Et un autre écrit, à l'approche du 2 février, date tant attendue des prises de soutane, c'est surtout un sentiment de joie qui prédomine. Joie d'être enfin revêtu de la livrée de notre Seigneur. Joie aussi parce que c'est la première étape de notre chemin vers le sacerdoce. Joie enfin de pouvoir témoigner publiquement de notre attachement à Jésus-Christ. Mais à cette joie se mêle un peu de crainte. La crainte d'y être infidèle dans un monde si opposé aux vertus que réclame le port d'un si saint habit. Cette crainte est heureusement contrebalancée par la certitude que Dieu me donnera les grâces nécessaires à ce nouvel état de vie. Et enfin, troisième, disons simplement que Dieu nous comble encore une fois en nous donnant de nous sentir visiblement un peu plus enveloppés de son esprit. Et puis après, alors, question que j'ai posée, donc, quel type d'apostolat souhaiteriez-vous avoir une fois prêtre? Devant l'immensité, la toute-puissance, la perfection de Dieu, toutes les banalités humaines s'évanouissent, toutes les inquiétudes terrestres paraissent bien fades, sans importance. Le monde s'agite, crie, s'énerve, désespère, tandis que Dieu reste immuable, imperturbablement parfait, immobile et silencieux. Voilà ce que j'aimerais, une fois prêtre, apporter au monde, et surtout aux jeunes, qui cherchent le bonheur là où il ne l'est pas. Apporter au monde un peu de cette simplicité de Dieu. Montrer au monde qui s'épuise en vain que le seul repos, la seule paix, la seule joie ne sont pas ailleurs qu'en Dieu. Et pour cela, il ne faut rien de moins qu'être uni parfaitement à Dieu. Vivre de sa propre vie, la vie de la grâce, et être tout à lui, dans les petites choses comme dans les grandes. Être ainsi un reflet au milieu du monde de Dieu lui-même et de sa simplicité. Et puis après, enfin, donc, quel conseil donneriez-vous à un jeune homme qui travaillait par la question de la vocation et qui n'ose pas s'engager? Trois considérations me paraissent particulièrement aptes à aider, encourager et stimuler un jeune homme qui se poserait la question de la vocation. Premièrement, l'immense grâce que représente le simple fait d'être travaillé par la question dans un monde résolument athée, et la nécessité par conséquent de tout mettre en œuvre pour répondre favorablement à l'appel de Dieu si telle est sa volonté. En effet, envisager vraiment d'être prêtre dans une société qui s'attache chaque jour davantage à outrager le nom de Dieu est une grâce exceptionnelle. Ce don gratuit de Dieu paraît d'autant plus extraordinaire qu'il est accordé à un jeune homme issu d'un milieu peu catholique. Mais si cette supposée vocation s'épanouit à la suite d'une solide et authentique éducation chrétienne, elle n'en doit pas moins, bien au contraire, être considérée comme un merveilleux signe d'élection. À combien peu d'enfants est-il donné aujourd'hui de pouvoir grandir au sein d'une famille pleinement catholique? Dans ces conditions, il n'est pas possible de jouer à l'enfant gâté, aimant recevoir mais ne voulant pas donner. À une époque où tant d'âmes vivent loin de Dieu et se damnent, peut-on vraiment refuser de se préparer au sacerdoce quand Dieu semble nous y appeler? N'est-il pas folie de se montrer timoré quand il s'agit de faire la volonté de Dieu? Que les jeunes gens qui se posent la question de la vocation considèrent quelle immense espérance Dieu met en eux. Quelle ingratitude et quelle lâcheté que de s'esquiver. Deuxièmement, la belle et joyeuse espérance que représentent les séminaristes pour les pieux catholiques. Autant les gens du monde pour qui l'argent, le pouvoir et le plaisir sont les seuls moteurs de l'existence s'attristent et ricanent lorsqu'ils apprennent qu'un jeune homme de leur entourage est entré au séminaire, autant les vrais et bons catholiques s'en réjouissent profondément. Les premiers frissonnent d'horreur en écoutant la nouvelle qui réveille douloureusement leur conscience assoupie. Les seconds débordent de joie en voyant déjà dans la personne du jeune séminariste le prêtre de demain qui transmettra le dépôt de la foi à leurs enfants. Un tel constat est très réconfortant et encourageant, parce qu'il montre qu'il n'y a pas de plus belle manière de donner un sens à sa vie et de se rendre utile que d'entrer au séminaire en vue du sacerdoce. Si beaucoup de fidèles de la tradition prient et se sacrifient pour leurs prêtres et leurs futurs prêtres avec tant de zèle, c'est parce qu'ils mesurent vraiment combien leur sont nécessaires leurs prêtres. Aussi, à une époque où l'Église traverse une crise effroyable, les motifs et prétextes fallacieux plus ou moins avoués qui dissuadent d'entrer au séminaire ne sont-ils pas indignes d'une âme quelque peu généreuse? Et puis troisièmement, toutes les grandes victoires s'obtiennent toujours au prix d'efforts importants. Celui qui manque de courage et d'énergie ne fera jamais rien de grand, dans quelque domaine que ce soit. Il gâchera assurément sa vie parce qu'il n'aura pas voulu se donner totalement. Qui voudrait éprouver un tel remords au soir de sa vie? On ne remporte aucune bataille si on mesure ses efforts, si on modère son audace et si on manque de persévérance. Lorsque la guerre est déclarée, qui oserait en toute bonne conscience refuser de partir au front alors qu'il est apte et en mesure de combattre? Aujourd'hui, Satan mène une guerre à mort contre l'Église et la chrétienté. Aussi, qui aurait la folle et déshonorante hardiesse de décliner la pressante mais silencieuse invitation du Christ-Roi à venir combattre sous son glorieux étendard? Tergiverser est déjà un signe de mollesse coupable. Dieu attend plus que jamais de ceux qu'il appelle discrètement à son service un oui magnanime, généreux et inébranlable. Donc voilà ce que disait un tout jeune séminariste, voyez, à près de 3 mois d'entrée au séminaire. Donc on sent la flamme du tout jeune qui est là, plein d'enthousiasme. Mais ça doit en tout cas aider peut-être certains jeunes à réfléchir à cette question de la vocation. Et puis enfin, donc juste un mot sur la vocation des frères, qui est une vocation qui semble plus cachée, peut-être plus mystérieuse aussi que la vocation de prêtre. Dans la fraternité, en tout cas, le Mgr Lefebvre avait voulu qu'il y ait à côté des prêtres des frères. Et ce que j'ai constaté donc depuis que je suis à Flavigny, c'est que plusieurs jeunes gens, quand ils ont le bac, eh bien ils pensent bac égale prêtre, vous voyez. Or, j'ai constaté que donc que fait un prêtre du matin au soir, à la différence du frère, vous voyez. Donc les deux sont des hommes de prière, les deux ont donné leur vie au bon Dieu, mais dans l'ensemble, que fait un prêtre? Eh bien, le prêtre est appelé à étudier pour donner des conférences, comme c'est le cas ici, aujourd'hui, étudier pour enseigner, lorsqu'il doit enseigner, étudier pour prêcher, donc il doit étudier. Ensuite, après, il doit parler, donc il doit prêcher, et puis ensuite, il doit conseiller, que ce soit au confessionnal ou après dans la direction spirituelle. Donc il a un rôle de, essentiellement donc d'étude et puis ensuite après de communication. Donc voilà. Et tout le monde n'a pas forcément les dons pour cela. Et le frère alors, lui, eh bien, certains frères sont manuels polyvalents, tous les frères ne sont pas des manuels polyvalents. Et donc une des raisons aussi pour lesquelles, pendant un certain temps peut-être, que ces vocations avaient du mal à éclore, c'est que la plupart des frères qui étaient chez nous étaient appelés à être un petit peu manuels polyvalents. Donc celui qui n'avait pas forcément ses dons, eh bien, il se disait « la vocation de frère n'est pas faite pour moi ». Mais plus cette vocation se développe, et aujourd'hui elle se développe davantage, et plus on peut essayer de trouver pour le frère le créneau qui lui convient davantage. Donc certains se donneront plutôt davantage dans l'éducation, donc il y a des frères qui sont assis dans les écoles, au moins frères éducateurs. D'autres pourront aider dans les prieurés, donc soit des tâches matérielles comme le jardin, comme la sacristie, ou soit pour diriger une chorale. Donc. Et puis d'autres, ensuite après, pourront avoir encore donc, d'autres champs d'action. Donc en fonction après donc, des dons du jeune homme, il faut essayer de voir pourquoi est-ce qu'il est fait, voyez. Un petit peu comme aujourd'hui dans beaucoup de familles, donc on veut à tout prix que tous les enfants aient le bac, et après le bac, il faut qu'il ait au minimum un diplôme, et donc on a tendance aussi un peu à mépriser parfois des carrières manuelles, alors que certains, ben, s'ils sont faits pour cela, il faut essayer de développer ses dons, quoi. Il me semble en tout cas que, et on le voit d'ailleurs, on ne peut pas donner à un jeune homme la vocation qu'il n'a pas. Donc un jeune homme qui pense à une vocation, si de fait il n'a pas cette vocation, on peut l'aiguiller sur sa véritable vocation. Mais si ensuite il s'avérait que ce n'était pas une vraie vocation, eh bien, c'est sûr qu'elle ne durerait pas. Je vous ai dit que lorsqu'une maman a une vocation à la place de l'enfant, cette vocation n'aboutit pas. Eh bien, donc là, c'est la même chose. Donc, si un jeune homme pense à une vocation sacerdotale et qu'on l'invite à être frère, si de fait il n'a pas cette vocation, ça ne tiendra pas. Or, l'expérience montre qu'il y a beaucoup moins de départs chez les frères que chez les prêtres, montrant bien que donc ceux qui s'orientent dans cette voie, eh bien, sont bien à leur place. Et il me semble que ce développement aujourd'hui lent, mais bien régulier du développement de frères, est une grande consolation et pour l'avenir et l'équilibre de la fraternité. Parce que même pour les prêtres eux-mêmes, vous voyez, dans la vie commune, Pour les offices en commun, par exemple, eh bien, le fait que les frères soient avec nous, c'est une bonne aide. Ensuite, les frères sont réellement religieux, ils font les trois vœux de religion, alors que nous ne faisons que le vœu de chasteté, nous ne faisons pas de vœu d'obéissance ni vœu de pauvreté. Et donc, ils sont pour nous un exemple. Et donc, ils nous aident à avoir l'esprit religieux. Monseigneur Lefebvre était religieux et il voulait que tous les prêtres aient l'esprit religieux. Et le fait d'avoir des religieux près de nous, bah, nous aide à être plus religieux, et donc à être plus fidèles à notre sacerdoce. Donc voilà. Donc, je vous laisse aller individuellement à la chapelle.